Ok, donc nous allons lire. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. J'ai lu jusqu'au verset 3. Donc, comme je disais que nous allons continuer notre étude sur les six fondements de la foi chrétienne, pourquoi avoir ces fondements ou connaître ces fondements? En fait, c'est ce qui nous permet d'être équilibré dans notre foi et c'est ce qui nous permettra, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, de discerner le vrai du faux, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'être inébranlable dans notre foi. Parce qu'en effet, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est une vie des tempêtes, c'est une vie des hauts et des bas, selon la chair et l'émotion, mais c'est une vie qui est straight par rapport à notre cœur, je veux dire à notre vie intérieure. C'est une vie de stabilité lorsque nous sommes bien assis avec Christ en esprit. Donc, nous avions vu la première partie. Pendant au moins 4 jours, nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Et nous avions vu qu'il y a beaucoup de personnages de la Bible qui nous révèlent cela, qui étaient les types de Christ et qui nous enseignent aussi sur ses fondements. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi en Dieu. Pourquoi parler de la foi? Parce que ça fait partie des fondements. Le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et par rapport au renoncement, nous avions dit que le renoncement est plus lié à la repentance. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé aux chrétiens d'Éphèse dans les Actes des Apôtres, il a dit qu'il avait pris le soin donc de prêcher la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, dans la conversion, il y a deux choses. Il y a la repentance et la foi. Donc, la conversion a deux côtés, la repentance et la foi. Voilà pourquoi, juste après avoir parlé du renoncement aux œuvres mortes, il parle de la foi. Alors, c'est quoi la foi? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malheureusement, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, même au temps des apôtres, la foi tendait déjà à être modifiée par des hommes mal inspirés et par des hommes qui ne comprenaient pas les doctrines fondamentales. Alors, nous constatons ici que par rapport à la foi, il est important de connaître d'abord l'origine de la foi, pour connaître quelle est la vraie foi, ou si la personne prêche la foi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prêche, dit que je prêche la foi. Parce que moi, au départ, je me rappelle les enseignements que j'avais reçus par rapport à la foi. Je croyais que la foi, c'était le fait de demander quelque chose et de croire avoir reçu la chose. On dit, ça, c'est la foi. Ou encore le fait de demander quelque chose auprès de Dieu et attendre, soit impatiemment ou patiemment la chose. On dit que on a la foi et que parfois on confond la foi avec la différence. Et plutôt on n'arrive pas à faire la différence entre la foi et l'espérance. Maintenant, c'est quoi la foi? Nous avions défini ce que c'est la foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est écrit: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, quelle est l'origine de la foi? C'est-à-dire, d'où vient la foi? La Bible nous donne la réponse. Dans Romains chapitre 10, verset 17, Romains 10, verset 17, je vais lire, il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où vient la foi? Quelle est l'origine de la foi? Eh bien, la foi vient de Dieu. La foi n'a jamais été une émanation d'un homme. La foi vient de Dieu, la foi est en Dieu et la foi a comme but Dieu. Donc toute foi, tout ce qu'on appelle foi, qui n'a pas comme origine Dieu, qui n'est pas soutenue par la parole de Dieu, elle est appelée à mettre de côté. Toute foi qui n'a pas comme but Dieu est appelée à mettre de côté. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa façon d'enseigner, avant de s'aimer, parce que lui, c'est le véritable jardinier, car au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. Et l'homme, là, c'était l'ombre de Jésus-Christ. Un bon jardinier sait que, avant de s'aimer quelque chose en terre, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'arranger la terre. Et le travail d'arranger la terre consiste à enlever les impuretés, à travailler la terre et ensuite à s'aimer. Voilà pourquoi, avant d'enseigner même la prière de notre Père, il a commencé par enseigner aux gens de savoir ce que n'est pas la prière, ou comment ne pas prier, avant d'enseigner comment prier. C'est pourquoi nous avons aussi pensé qu'avant d'enseigner ce que c'est la foi, il serait judicieux de parler d'abord de ce que n'est pas la foi ou la foi erronée pour mettre des bases de la foi. Premièrement, ce que n'est pas la foi ou quelle est la foi erronée prêchée aujourd'hui? Premièrement, je vous avais déjà annoncé ça, tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu n'est pas la foi. Parce que la foi a comme origine la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je vais rappeler ici que dans une autre version, ou dans Romains chapitre 10, verset 17, la version Semeur dit que la foi naît. Je vais lire ça, la Bible de Semeur. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la version Semeur dit ceci. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Il y a une version, la version parole vivante dit, la foi naît lorsqu'on écoute le message. Et ce message est centré sur le Christ. Et lorsqu'on parle du Christ, cela parle de Jésus qui devait venir et mourir à la croix et ensuite être élevé à la droite de Dieu. Et la Bible continue que la foi naît du message qu'on entend, le message qui concerne le Christ. Et le message qui s'appuie sur sa vie et sur sa venue. Donc, le message qui produit la foi dans les cœurs, c'est le message qui concerne le Christ. Et lorsqu'on parle du Christ, on se souvient de l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc, le message qui parle de la foi, ou le message qui produit la foi, c'est le message qui concerne l'Évangile. Or, c'est quoi l'Évangile? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il prêche l'Évangile. Mais quelle est la composition de l'Évangile? Lorsqu'on dit l'Évangile ou la bonne nouvelle, quelle est la composition de l'Évangile? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'Évangile de la prospérité. On ne peut même pas appeler ça l'Évangile parce que l'Évangile ou Évangile signifie bonne nouvelle. L'Évangile ou encore le message qui attire, qui conduit le cœur des gens à aimer le matériel, à aimer l'argent, à aimer le luxe, à aimer le plaisir naturel, c'est pas un message, c'est pas la bonne nouvelle. C'est peut-être un message, mais ce n'est pas l'Évangile. Et quel est le message que l'apôtre Paul considère comme l'Évangile? Nous allons prendre notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset, on peut lire jusqu'au verset 4. Écoute bien ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Vous voyez bien, il dit que l'évangile qu'il a annoncé, qu'ils ont reçu, et c'est cet évangile-là qui les sauve ou qui les a sauvés, il dit, si du moins vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc l'évangile doit rester à l'état initial, à l'état pur. Si vous changez l'évangile, c'est fini, l'évangile est gâté. Et nous savons aujourd'hui que s'il y a beaucoup plus de maladies dans cette génération que dans les générations passées, c'est parce qu'il y a trop de fake, parce qu'il y a trop de contrefaçons, et surtout dans le domaine alimentaire. Pour trouver la souche pure, pour trouver des aliments purs, c'est devenu difficile. avec l'industrialisation, tout est gâté. Trop de greffage, trop de mélange, etc. Donc, c'est difficile de manger une nourriture saine. Et c'est ce qui crée aujourd'hui les maladies. Alors, si les gens tombent de plus en plus malades à cause de la nourriture qui est gâtée, qu'en est-il maintenant de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu? Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens malades, des chrétiens déformés, c'est des chrétiens qu'on peut dire monstres, c'est parce que l'évangile a été gâté. Alors l'apôtre Paul définit ce que c'est l'évangile. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui concernent l'enseignement. Mais avant toute chose, il faut commencer par là. La base de l'enseignement de l'évangile qui produit la foi commence par là. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile, c'est le message de la mort de Jésus. Or, lorsqu'on parle de la mort de Jésus, cela entraîne aussi notre mort par rapport au péché. Lorsque nous abandonnons le monde, nous acceptons de mourir par rapport au monde pour faire la volonté de Dieu. Ensuite, l'évangile concerne l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est lorsque on emballe le corps. L'ensevelissement, c'est quoi? C'est l'abandon total de notre vie. L'évangile consiste à dire aux gens que vous ne devez plus marcher par vous-même. Vous devez vous abandonner totalement entre les mains de Dieu afin que Dieu vous conduise. Ensuite, l'évangile parle de la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. La Bible dit, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi? Pour vivre en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? L'évangile consiste à dire aux gens, vous êtes morts par rapport au monde, maintenant vous êtes ressuscité, vous devez vivre une nouvelle vie. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, c'est une nouveauté de vie. Hein, c'est bien exprimé dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. On peut lire dans Éphésiens chapitre 4. Je peux prendre, par exemple, à partir du verset 18 pour mieux comprendre. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais là, regarde le verset 25. On dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne cesse de dérober. Mais plutôt qu'il travaille, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant avec ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, etc. Donc vous voyez l'évangile. L'évangile consiste à parler de la résurrection. Et la résurrection, c'est une nouveauté de vie. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau ou encore que tu as été visité par Christ et que tu continues dans les mêmes péchés, dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs. Parce que quand Christ vient dans notre vie, il transforme notre âme, il transforme notre caractère. Il commence par transformer notre intérieur et cela affecte l'extérieur. Et ceux qui nous connaissaient peuvent constater que celui qui était méchant est devenu quelqu'un de doux. Celui qui volait a cessé de voler. Celui qui était impudique a cessé avec l'impudicité. Celui qui était escroc a cessé avec l'escroquerie. Celui qui était prostitué a cessé avec la prostitution. Les signes doivent être visibles. On doit voir les fruits de la repentance. On doit voir la haine du mal, l'amour de la justice. Et c'est ça le message de l'évangile. Et c'est ce message-là qui produit la foi en Jésus-Christ. Donc je disais, la foi, ce qui n'est pas la foi, c'est une foi qui n'est pas centrée sur la parole de Dieu, où on vous dit de croire simplement. Et qu'est-ce que n'est pas la foi? La foi ne consiste pas à croire aux choses de Dieu, mais la foi doit pousser l'homme à croire en Dieu lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la foi a été détournée dans la mesure où, dans certaines églises, par exemple, on dit aux gens de croire aux jeûnes qu'ils font, de croire à la prière qu'ils font, hein, la récitation des prières. Si tu récites de telle façon, tu verras ce que Dieu va faire. Donc, l'homme n'a plus foi en Dieu, mais l'homme commence à avoir foi dans la prière. Ce n'est pas mauvais de prier, ce n'est pas mauvais de jeûner, mais ce sont des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous disposer spirituellement. Mais nous ne devons pas mettre notre foi dans les moyens, c'est-à-dire dans le jeûne et la prière, bien que ces choses soient bonnes et indispensables pour les chrétiens. La foi n'est pas une pensée positive, parce qu'il y a des gens qui prêchent aujourd'hui la pensée positive dans les églises sans le savoir. Ils disent aux gens, tout ce que vous voulez, imaginez ça dans votre esprit et proclamez avec votre bouche que vous allez obtenir cela. J'ai suivi un documentaire, je crois que le nom du documentaire c'est Le Secret, et dans ce documentaire-là, les gens ne savent pas qu'en suivant ça, ils développent l'amour, la convoitise, c'est-à-dire que les gens marchent là où partout ils se baladent, ils imaginent des choses, recevoir des choses, imaginer la télé, etc. J'ai vu des gens comme ça dans les églises où vous voyez le prédicateur dire aux gens, ouvre tes mains, dis j'ai reçu 1 million, j'ai reçu 3 millions, ouvre les mains, prends la clé, dis j'ai maintenant une voiture. Et comme surtout en Afrique, hein, puisqu'en Afrique c'est dans certains coins, avoir une voiture c'est un luxe, acheter une maison, etc. Donc les gens font de la pensée positive la foi. La foi n'est pas une pensée positive. Et la foi n'est pas aussi un monde imaginaire. Mais la foi, c'est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi on voit par exemple, dans certains cas, où après avoir prié pour, par exemple pour un malade, on dit à la personne, même si tu sens la douleur, confesse que tu es guéri. Hein, déclare que tu es guéri. Dis que tu es guéri, dis que ça va. On ne peut pas dire ça va si ça ne va pas. Quand l'apôtre Paul disait, pendant que je suis fort, c'est alors que je suis, pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que dans ses yeux spirituels, dans son homme intérieur, il voyait ça et il a confessé cela. Donc la foi n'est pas un monde imaginaire où tu commences à imaginer les choses, tu te dis, bon, en imaginant ceci, je pourrais devenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout développé aux États-Unis où on est en train d'enseigner le Kingdom Now. On prêche aux chrétiens que c'est maintenant que vous devez vous approprier de toutes les richesses de Dieu parce que Dieu vous a appelé à être très riche, à avoir le luxe sur la terre, à dominer partout, etc. Ça, c'est un faux message parce que Jésus n'a pas prêché ça. Les apôtres non plus n'ont pas prêché cela. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens doivent être pauvres ou les derniers, mais un chrétien doit se contenter de ce que Dieu lui a donné et savoir que le monde présent est sous la domination de Satan. Et Satan a dit à Jésus, « Ceci m'a été donné, les royaumes et leur gloire, j'en donne à qui je veux, à celui qui se prosterne devant moi. » Donc, plusieurs chrétiens, plusieurs même ceux qu'on appelle hommes de Dieu, se sont prosternés devant Satan sans le savoir, en courant après l'argent, en courant après l'honneur. Voilà pourquoi il y a de plus en plus des scandales sexuels, des scandales de détournement, des scandales concernant les détournements de fonds, etc., au milieu même de ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont couru après l'argent. Ils ont adoré la créature. Ils ont adoré l'argent à la place de Dieu. Voilà pourquoi ils ont été piégés. L'apôtre Paul a dit cela dans 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Il dit « La piété avec contentement est une grande richesse. » Nous allons lire ça un peu. J'aime beaucoup ce passage. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Je préfère le lire dans la version la Bible de Semer. Voici ce qui est écrit. « La véritable foi en Dieu. » Ah, j'aime ça. « La véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous avons la nourriture et vêtements, nous en contenterons. Verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Écoute bien le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Donc tu vois, l'amour de l'argent entraîne à l'égarement et plusieurs sont égarés. Mais eux, ils se contentent à exercer les activités religieuses. Ce n'est pas parce que tu exerces ou encore tu es toujours là en train de faire les activités religieuses que tu es en Dieu. Quelquefois, tu es déjà égaré. L'apôtre Paul a parlé de cela. Il dit que dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Et en la démangeaison d'entendre les choses agréables, il se formera une foule de docteurs. Et quelque part, toujours dans Timothée, il est écrit que plusieurs vont garder la forme de la piété. Hein, les mots chrétiens, les habillements, les rites, etc. Mais ils vont régner ce qui fait la force de la piété ou l'attachement à Dieu. Mais la Bible dit que nous devons faire très attention à ces gens-là. Donc la foi n'est pas une pensée positive, la foi n'est pas un monde imaginaire, mais c'est une réalité spirituelle. Il faut dire ce que Dieu t'a dit, même si cela est contraire à ce que tes yeux voient, puisque c'est Dieu qui t'a dit, tu le confesses. Mais si Dieu ne t'a pas dit cela, ne le confesse pas, parce que la foi n'est pas imitable. Tu ne peux pas imiter la foi de quelqu'un d'autre ou la révélation de quelqu'un d'autre. Mais il faut que Dieu te parle toi-même. On peut imiter leur caractère, leur façon d'être, leur motivation, leur détermination, être encouragé par eux, mais ne pas faire comme eux, parce que l'Esprit utilise chacun de façon différente. Jésus, par exemple, a guéri trois aveugles de trois manières. À Bartimée, quand il a dit « Fils de David, aie pitié de moi », il a dit « Vois, il a vu ». L'aveugle de Marc chapitre 8, il a mis la salive sur ses yeux. Par exemple, l'aveugle de Jean 9, il a fait la salive avec la boue et il lui a dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Mais chacun, à chaque personne, le Seigneur a utilisé une procédure. Voilà pourquoi. Nous ne devons pas imiter la foi, mais être connectés à Dieu afin que Dieu nous révèle ce qu'il veut que nous fassions. C'est très important. La foi n'est pas aussi une licence pour paresser. Parce qu'aujourd'hui, la foi a poussé plusieurs personnes à la paresse. Non, j'ai foi. Dieu m'a dit que j'aurai un examen. Alors, la foi signifie, même si tu es élève et que Dieu t'a dit que tu auras un examen, tu seras admis à l'examen, il faut apprendre aussi à lire tes leçons. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu seras admis que tu vas aller t'asseoir pour dire que, comme Dieu l'a dit, c'est fini. Non, la foi marche, la foi est active. Il faut aussi s'activer, marcher selon ce que Dieu t'a dit. Il ne suffit pas de rester tranquille, croiser les mains, attendre. Non, la foi consiste aussi à bouger. Dieu t'a dit, par exemple, tu seras un grand prédicateur. Mais toi, tu ne passes pas ton temps à lire la Bible. Tu ne passes pas le temps dans la prière. Il y a des choses que nous allons voir, que lorsque nous allons nous activer, c'est très important. La foi, comme je disais, n'est pas centrée sur l'homme, mais centrée sur Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes, au lieu d'avoir foi en Dieu, ils ont commencé à avoir foi et mettre leur confiance dans les hommes de Dieu. Il est vrai que la Bible dit dans Chronique, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Et confie-toi à mes serviteurs, tu réussiras. Cela ne signifie pas que nous devons mettre totalement notre confiance dans les hommes. Parce que les hommes peuvent se tromper. Même moi qui te prêche maintenant, il peut arriver que je me trompe. Mais si toi tu es connecté à Dieu, quand je vais me tromper, tu sauras que ce type-là s'est trompé parce que tu es connecté à la source. Mais si tu es connecté à moi, si je me trompe, je te conduis aussi à la dérive. Je vais prendre un exemple simple pour atterrir. Souviens-toi de Paul, et plutôt de Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 22 là-bas. Jésus pose la question aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» C'est à partir du verset 13, je crois, 13 à 22. Ils ont commencé à donner des réponses. Certains disent que tu es Élie, d'autres Moïse, d'autres l'un des prophètes. D'autres, on dit même que tu es Jérémie. Ça, c'est ce que les hommes disaient de Jésus. Mais il dit, et vous? La Bible dit, Pierre, poussé par l'Esprit, dit, tu es le Christ et le sang venu de Dieu. Jésus a dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit beaucoup de choses sur Pierre. Et la Bible dit au verset 21 de Matthieu chapitre 16, dès ce moment-là, Jésus commença à leur révéler ouvertement qu'il devait mourir, qu'il devait passer par la croix, qu'il devait souffrir. Le même Pierre qui avait reçu la révélation fraîche venant de Dieu, la Bible dit qu'il a pris Jésus dans un coin, il a commencé à le réprimander en disant, God forbid, en disant, comment on dit ça en français, à Dieu cela ne plaise. À Dieu cela ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Mais quand Jésus a regardé, en fait, quand il disait à Dieu cela ne plaise, c'est comme s'il disait ainsi par l'Éternel. Lui croyait qu'il était devenu le spécialiste en révélation. C'est vrai que Dieu avait parlé de sa part, mais cette fois-là, ce n'était plus c'était plus de la part de Dieu. Ce n'était plus de la part de Dieu. Quand Pierre, quand Jésus s'est retourné, il a dit quoi? Arrière de moi, même pas démon, mais arrière de moi Satan. Arrière de moi qui Satan. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il voulait dire à Paul, à Pierre, tu veux te passer pour un messager de Dieu, pour Dieu, que tu parles de la part de Dieu. Oui, tu avais parlé de la part de Dieu il y a quelques minutes, mais cette fois-ci, ce n'est pas de la part de Dieu que tu parles. Ce sont tes propres pensées. Et tes pensées sont influencées par Satan. Tu veux m'empêcher d'accomplir le salut de l'humanité. Voilà pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Si nous sommes attachés à la parole, nous serons inébranlables. Mais si nous sommes attachés aux hommes, si l'homme tombe, nous tomberons aussi. L'homme peut tomber, mais Jésus ne tombe jamais. Voilà pourquoi pour être en sécurité, il faut être attaché à la parole. Moi, je connais des hommes de Dieu qui étaient purs, qui marchaient avec Dieu, mais aujourd'hui qui ont abandonné Dieu, mais qui sont toujours sur le terrain. Ils prêchent l'évangile, ils ont toujours des foules avec eux, mais ils ont abandonné la parole pure. Ils ont été corrompus par l'argent et le plaisir du siècle présent. Mais comme les gens sont attachés aux hommes, ils pensent toujours qu'ils sont comme ils étaient avant. Ils sont toujours attachés à ces gens, alors que l'onction est déjà partie. Même la Bible nous révèle de telles personnes. On a l'exemple, par exemple, du sacrificateur Élie. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Mais à un moment donné, quand il est devenu vieux, ses enfants ne suivaient plus ses voix, les voix de Dieu. La gloire de Dieu avait déjà quitté Israël, mais lui, il était là, toujours en train de servir dans le temple. Il y a par exemple l'exemple du roi Saül. Saül, au départ, c'est lui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Mais l'onction était partie vers David. Mais il était toujours là comme roi. Il ne savait pas que l'onction était déjà partie. Mais les gens étaient toujours attachés à Saül. Quelle était la fin de ces gens? Ils sont morts avec Saül. Or, si nous sommes attachés à la parole, quand la personne va changer de position, nous allons vite nous rendre compte. Et nous allons nous séparer de cette personne. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, frère, si je suis encore dans la parole, restez attachés à moi. Si vous constatez que je ne suis pas dans la parole, réprimandez-moi, j'en ai besoin, afin que je revienne. Et si je suis incapable de revenir, séparez-vous de moi parce que je vous emmène loin de la parole de Dieu, loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est la mort, non seulement physique, mais la mort éternelle. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens que je connaissais avec qui, des gens que je respectais beaucoup, des gens avec qui on a travaillé ensemble, on a organisé des choses ensemble. Aujourd'hui, on se salue, on peut se dire bonjour, on peut s'entraider naturellement, mais en ce qui concerne l'évangile, on ne marche plus ensemble parce que le constat est fait que ces gens ont abandonné la saine doctrine. On reste, on peut dire, entre guillemets, frères, on peut se saluer, mais on ne peut plus marcher ensemble parce que vous avez abandonné la parole. Or, notre relation, notre union, c'est quoi? La Bible dit que nous avons un seul Père. Pourquoi? Parce que notre Père, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Si vous avez abandonné la parole, vous avez abandonné Dieu. Alors, à quoi bon rester, continuer à rester ensemble? Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il n'y a pas question d'émotion. Il ne faut pas être émotif. Mais il faut prendre des décisions, je dirais même radicales, afin d'être toujours du côté de la vérité. J'ai l'habitude de dire, je préfère être deux. Alors, je préfère qu'on soit deux avec Jésus que 2000 personnes sans Jésus. Je préfère être du côté d'Élie, qui était seul avec Dieu, que du côté des 850 prophètes de Baal. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas courir après la foule, mais nous devons courir après Dieu, parce que la foule peut facilement nous tromper. Donc voilà un peu la première partie. Je ne sais pas si on va continuer à parler de la foi, parce que le message de la foi, c'est un message qui est très long, parce que nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pris tout un chapitre pour parler que de la foi, en citant ces héros de la foi. Donc par la grâce de Dieu, nous allons voir ces héros de la foi cités dans Hébreux chapitre 11, et nous verrons leur caractère pour comprendre réellement qui est celui qui a la foi. Donc pour aujourd'hui, c'était l'introduction, et nous avons parlé de ce que n'est pas la foi, pour être un peu plus clair, déjà enlever les impuretés, les mauvaises pensées par rapport à la foi, pour nous préparer maintenant à rentrer dans le vif du sujet, comme il faut le dire, pour parler de ce que c'est la foi en Dieu. Amen.